17h à Niamey, tout de suite le journal en français du studio Kalangou. À la une, le président élu de la République fédérale du Nigeria a prêté serment aujourd'hui devant un parterre de personnalités et d'invités. À suivre dans cette édition, les attentes des réfugiés nigériens de Ngingemi. Le comité international de la Croix-Rouge organise du lundi au vendredi à Niamey un concours de plaidoirie en droit international humanitaire à l'endroit des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Plus de précisions à suivre dans ce journal. Et notre partie magazine de ce soir va porter sur le fonctionnement du service social du tribunal de Maradi. Bonsoir à tous, je suis Rafika Taher au micro. Bola Ahmed Tinubu a prêté serment ce lundi 29 mai en tant que nouveau président du Nigeria. À 71 ans, celui que l'on surnomme le faiseur de roi pour son influence considérable a été élu en février 2022 au premier tour et avec une confortable avance, chef de l'État du pays le plus peuplé d'Afrique. Ses deux principaux adversaires ont dénoncé des fraudes massives lors du scrutin et déposé des recours en justice toujours en examen. En lien avec cette investiture, les réfugiés nigériens qui se trouvent à Ngingemi, dans la région de Diffa, attendent beaucoup du nouveau président. On les écoute au micro de Abdoulaye Maina.
Nous souhaitons qu'il rétablisse la paix dans la zone du Borno et le Nigeria en général. Partout où il y a l'insécurité, nous les réfugiés, nous sommes éparpillés un peu partout comme au Niger, au Cameroun et au Tchad. Nous prions Dieu pour qu'il l'assiste afin qu'il puisse nous ramener dans nos zones respectives sains et sauves. Nous souhaitons qu'il fasse revivre la croissance économique du Nigeria.
L'appel que nous lançons au nouveau président de notre pays, c'est de privilégier le dialogue avec ceux qui se sont révoltés pour trouver un consensus de paix à cause de Dieu et de son prophète. Si le consensus est trouvé, l'on n'a même pas besoin d'attendre qu'on lui dise de retourner au Berkay. La personne d'elle-même va rejoindre son village et s'adonner à ses activités. Car à ce jour, il y a des personnes qui ont abandonné leur bien là-bas où l'on a vécu des années. C'est là-bas son environnement adéquat.
Début ce lundi 29 mai sur l'ensemble du territoire national des examens du brevet d'études professionnelles. Le lancement officiel a eu lieu ce matin au lycée professionnel Amitié Niger-Algérie par le ministre de la Formation professionnelle et technique, Kassou Mamman Mokhtar. Il est au micro de Maria Manouhou.
Nous sommes satisfaits des conditions d'organisation de cet examen du BEP national. Nous avons environ 9033 candidats qui sont répartis dans 36 jurys. Les candidats vont composer dans 34 filières de secteurs industriels, tertiaires et primaires. Nous avons le retour à l'intérieur du pays également et tout se passe comme prévu. Et nous souhaitons, au-delà des épreuves écrites et même les conditions de pratique sont réunies, et que tout va se passer comme prévu. La particularité, c'est d'abord l'informatisation du système que nous allons poursuivre. Nous sommes en train d'organiser ces examens dans des conditions de réformes profondes, structurelles de notre sous-secteur.
La commune de Dogondouti, en collaboration avec la Fédération communale des CGDES, a organisé un test d'excellence à l'intention de tous les élèves de CM2 de la commune dans ce mois de mai. C'est un taux de 4,17% qui a été réalisé. Pour le maire Boubacar Meikidougou, ces résultats ne sont pas satisfaisants et des réflexions seront engagées pour voir comment améliorer ces résultats à l'avenir. On l'écoute au micro d'Abdelaziz Dayouma.
Je dirais que les résultats obtenus, la satisfaction que nous pourrons tirer de ça, c'est qu'il y a une bonne progression, ça s'améliore. Mais du point de vue intéressant, nous pouvons dire que les résultats ne sont pas encore satisfaisants. Ces tests nous ont permis quand même de regarder ensemble avec déjà les inspecteurs, nous avons fait une première séance. Nous allons continuer à réfléchir pourquoi ces résultats ne sont pas assez bons et voir quelles sont les actions qu'il faut mener. Donc ça peut être des actions que nous-mêmes on peut faire en tant que commune, mais aussi comme nous avons constaté à ce test, nous avons eu beaucoup de contributions sortissant de Dogondouti. Donc, avec eux, tous ensemble, nous pensons que nous pouvons améliorer ces résultats. Donc, nous allons faire des réflexions pour voir quelles sont les dispositions à prendre. Déjà, à l'issue du test de l'année passée, nous avons eu à faire quelques actions et nous allons donc continuer à réfléchir pour améliorer significativement, en tout cas, ces résultats.
Cérémonie officielle d'ouverture ce matin aussi de la 13e édition du concours de plaidoirie en droit international humanitaire à l'Université de Niamey. Cette année, l'édition est spéciale pour le CICR car elle marque les 160 ans de l'histoire de l'institution. Écoutons le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge du Niger, Ronald Oftheringer, au micro de Fatima Lemiaro.
Le concours est à sa 13e édition, ce qui témoigne de sa pérennité et de l'intérêt qu'il continue de susciter auprès des plus grandes universités et écoles du Niger. Pour le CICR, cette édition est spéciale car cette année marque les 160 ans de l'histoire de notre institution. Et tout au long de cette histoire, à commencer par la première convention de Genève de 1864, le droit international humanitaire a été au cœur même de notre mandat. Le CICR a toujours œuvré pour la diffusion du droit international humanitaire et pour son intégration dans les politiques et pratiques militaires et civiles.
Plusieurs armes de guerre et une importante quantité de munitions ont été remises ce matin au gouvernorat d'Agadez lors d'une cérémonie officielle. Elles sont 11 personnes qui ont par cet acte répondu à l'appel du président de la République. Un geste salué par le gouverneur de la région d'Agadez, Magaji Mamandada. Il est au micro d'Anis Karim.
Je dois remercier ceux qui ont décidé volontairement de remettre les armes suite à l'appel lancé par le président de la République pour que tous les Nigériens soient ensemble autour de la paix. Parce que sans ça, il n'y a pas de développement. On a un RPG 7 et des munitions, des roquettes et des chargeurs. On a un 12-7, 3 AK-47 et un FAL. Les facilitateurs nous ont contactés pour nous dire qu'ils ont un groupe de personnes, des Nigériens, qui ont accepté de répondre à l'appel du président de la République. C'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime. Je vous dis que le président de la République aura le compte rendu tout de suite. Nous avons déjà fait cela à Tchintoulous il y a quelques mois. Nous l'avons répété à Tchiro et nous l'avons fait aussi à Danet. Maintenant que ça vient du Kawar, nous pensons que très prochainement, les autres aussi vont faire les mêmes actes pour que Agadez soit entièrement en paix.
Des individus armés non encore identifiés ont attaqué hier nuit le village de Djambala, situé à 22 km de la ville de Tillabéri. Le bilan provisoire fait état de 4 personnes tuées, selon notre correspondant. Début également ce matin à Wallam d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux sur l'opérationnalisation des Nexus Urgence Développement Paix. Cette activité est organisée par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et le Programme Alimentaire Mondial dans le cadre du projet Cohésion Sociale entre les déplacés internes, les réfugiés et les populations hôtes. Assoumane Abdrahman, point focal du projet, est au micro de notre envoyé spécial Assoumane Achina.
Nous sommes dans un contexte et le projet intervient sur ces questions de personnes déplacées internes, réfugiés, populations hautes. Il y a un certain nombre de biaba, il y a un certain nombre d'outils que les jeunes doivent essayer de comprendre. C'est quoi la protection? Protéger qui? Contre qui? Quand? Et comment? Il y a les questions de plainte. Quand on voit sur les questions de foncier beaucoup de situations qui arrivent, c'est parce que les gens méconnaissent non seulement les textes, et même quand il y a problème, où se référer au lieu vraiment de faire naître un conflit dont on ne connaît pas les fins, et aussi les questions de consolidation de la paix qui doivent être perpétuellement travaillées, cultivées pour que notre pays puisse vivre vraiment un havre de paix dans les conditions de cohésion sociale, coexistence pacifique, consolidation de la paix.
Le Conseil supérieur de la communication a organisé une rencontre avec les responsables des partis politiques et ceux des médias publics et privés samedi. L'objectif est le tirage au sort de l'ordre de passage, d'enregistrement et de diffusion des messages des partis politiques retenus sur les médias publics pour les élections législatives partielles de la diaspora du 18 juin 2023. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du président du CSC, Salif Labo Boucher, recueilli par Maman Ada.
La campagne électorale pour les élections partielles de la diaspora du 18 juin 2023 va se dérouler loin de nous, mais demeure malgré tout un enjeu pour les partis politiques, en particulier et pour le Niger en général. Dans ce monde interconnecté, elle se fera de fait au Niger, surtout sur les médias nationaux, au vu de l'intérêt qu'elle suscite auprès des Nigériens. Il est donc de notre devoir, en tant qu'autorité de régulation des médias, d'assurer l'accès équitable des partis politiques aux médias publics et de promouvoir le pluralisme d'opinion et l'équilibre dans le traitement de l'information dans les médias privés conformément à nos attributions.
Un peu plus de 4 mois après l'annonce des premiers cas de la grippe aviaire au Niger, les membres de l'interprofession du secteur de l'aviculture du Niger ont repris leurs activités. Pour arrêter la psychose liée à la maladie, les autorités ont le devoir d'annoncer la fin de la maladie, explique le président de l'interprofession, Cheibou Gaouri. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
C'est vrai, à un certain moment, il fallait interdire, il y a un impact sur la production. Mais Dieu merci, les productions ont pu reprendre, on a pu avoir nos commandes qui sont venues et les gens ont des nouveaux sujets et la production des œufs et de la viande de volaille aussi a repris. Jusqu'à présent, les producteurs qui ont perdu leur cheptel, puisqu'il y a deux façons de perdre rien, ça peut être fait à titre préventif ou bien quand la maladie se déclare, on peut aussi perdre les sujets parce qu'ils sont malades. De toute façon, il y a des procédures qui sont là, des dédommagements. C'est vrai que jusqu'à présent, les gens n'ont pas été dédommagés. C'est des procédures parfois qui prennent un peu de temps. Les gens étaient obligés de voir dans ce qu'ils ont comme épargne. Certains se sont orientés vers les institutions. Ce n'est pas quelque chose aussi facile. Quand même, on a pu reprendre.
Au tribunal de Maradi, il existe un service social qui aide dans le traitement des dossiers du cabinet du juge des mineurs et celui chargé des affaires sociales et civiles coutumières. Pour le traitement des mineurs, il s'agit de faire connaître l'enfant au juge à travers une enquête psychologique de l'enfant. Cela permettra au juge de mieux prendre sa décision. Pour la responsable du service, Madame Mahamman Sani Amina, son service joue un rôle important dans l'orientation de l'enfant. Elle est interrogée par Mohamed Mahamman. De la partie magasin.
Le service social du tribunal, il est un peu différent des autres services sociaux. C'est juste pour appuyer les juges des mineurs surtout, avec les dossiers des mineurs, d'une manière psychologique, cerner le caractère, le comportement, qu'est-ce qui a conduit l'enfant à poser certains actes. Le travail social, il aide le juge à mieux comprendre la situation de l'enfant, au lieu de l'amener directement en détention. Donc il y a d'autres alternatives qui se posent à lui. Il a besoin du travail social pour l'orienter un peu, l'inciter à mieux cerner l'enfant.
Vous qui recevez les enfants, qui essayez de comprendre un peu la situation de l'enfant, généralement, qu'est-ce qui pousse ces enfants à commettre ces crimes?
C'est vraiment la mauvaise fréquentation. En premier, les enfants sont surtout influencés à certains âges, de 13 à 18 ans. Et surtout, il y a la situation familiale qui se pose. Il y a la famille qui est recomposée. Le papa n'est pas là, la mère est décédée, ou bien les deux parents sont décédés, l'enfant il est chez la grand-mère, un temps il est chez l'oncle, un autre temps. Quand ça lui tombe comme ça, c'est vraiment difficile pour un être aussi fragile que lui qui cherche à trouver une voie. Et quand il n'est pas guidé, il n'a pas de repère, il se perd.
Quand un enfant est arrêté, comment vous faites l'orientation?
Le juge des mineurs, il est saisi directement ou par le procureur. Moi, il me donne une ordonnance d'enquête sociale. Il y a certains points sur lesquels il veut qu'on insiste. Ces points-là sont surtout la situation matérielle et morale de la famille de l'enfant. Dans quelles conditions l'enfant est? Comment il vit? Il est avec qui? Avec les deux parents ou il est avec un parent ou bien il n'est pas avec ses deux parents carrément? Les antécédents du mineur et ses fréquentations.
Il arrive aussi d'envoyer l'enfant dans un centre de rééducation. Alors comment ça se fait cette orientation?
Pour le placement dans un centre, c'est le juge qui est le seul habilité à placer un enfant. Il y a une demande que le parent doit faire. On dépose la demande au cabinet du juge des mineurs. C'est à lui d'approuver. Mais l'approbation du juge des mineurs même, elle est conditionnée par une enquête sociale qui va déterminer l'historique de l'enfant, l'historique de la famille. Qu'est-ce qui a poussé la famille à vouloir placer cet enfant-là dans un centre? Ça, c'est quand l'enfant n'est pas en conflit avec la loi. Parce qu'il y a deux catégories d'enfants. Il y a les enfants qui sont en danger et il y a les enfants qui sont en conflit avec la loi.
Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Tarnal Foudé Ahmed vous présentera le Tamachèque.